Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Une petite introduction pour présenter ce travail qu'on a entamé donc sur quelques mois, jusqu'au mois de juin, 11 lectures donc tirées de l'œuvre d'Antoine Volodine et des écrivains post-exotiques. Donc c'est une compagnie qui s'appelle Les Arquelins, qui est basée en Ariège. Et Antoine Volodine nous a fait l'honneur et enfin, c'est vrai, tellement touchant que j'ai pas les mots pour le remercier de venir à la première. Donc, il lira un extrait du même livre que nous avons choisi pour démarrer, qui s'appelle Le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11, qui est paru chez Gallimard. On a choisi ce texte en introduction pour démarrer le cycle parce que c'est un texte un peu théorique qui expose le pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière le post-exotisme, qu'est-ce que c'est que ce mot, quelle école est-ce, d'où ça vient. C'est une école très particulière, je ne vais pas longuement exposer, surtout devant son créateur et son représentant. Mais si vous voulez, l'idée d'Antoine Volodine, peut-être, dans ce roman, c'est un petit peu de couper l'herbe sous les pieds de la critique littéraire qui a toujours tendance à interpréter d'une certaine manière, en fonction des modes, en fonction de catégories qui sont pré-créées. Antoine a sans doute voulu leur couper l'herbe sous les pieds et puis proposer une définition de manière rigoureuse et de manière qui ne laisse aucun doute à des interprétations farfelues ou qui dérivent de l'idée force qui soude cette espèce d'ensemble d'auteurs, donc post-exotique. Voilà, et c'est un peu la raison pour laquelle on a choisi un texte qui paraît a priori un petit peu théorique, mais vous verrez qu'il est très, il éclaire beaucoup, il y a des moments d'humour, enfin, voilà, c'est un texte qui sonne dans la langue française, je dirais, c'est ça aussi qui nous a fait le retenir. Voilà, donc Antoine va commencer à lire quelques extraits, un extrait de ce roman, et ensuite les Arquelins donc liront en compagnie de Joël Sidbon, la viole de gamme, liront un grand morceau, une 45 minutes à peu près, de ce roman. Si vous souhaitez ensuite poser des questions à Antoine, je pense qu'il sera disponible pour répondre éventuellement à vos interrogations et à vos suggestions et à vos doutes. Voilà. En tout cas, merci d'être là, c'est très encourageant. Une salle comble dans les conditions dans lesquelles on est, c'est pas non plus quelque chose dont on peut se vanter. Mais enfin, bon, c'est déjà très bien que vous soyez tous là et que le quorum, comme on dit maintenant, soit atteint. Voilà, bonne écoute et à tout à l'heure.
Nous n'avons pas flanché quand nous avions mal. Nous avons fait semblant de flancher. Nous avons fait semblant d'être terrorisés. Nous n'avons pas hurlé notre désarroi sur tous les tons. Notre désespoir. Au lieu de nous plaindre, nous avons égrené de longues listes d'oiseaux, des listes de peuples décimés, de singes, de poissons. Nous n'avons presque pas parlé des tabassages que nous subissions. Nous avons évoqué d'autres tabassages plus atroces que d'autres avaient subis. Et, pour en sortir, nous avons décrit des paysages bleus, nous avons battu des ailes au-dessus de prairies turquoises, planées à la verticale d'orges couleur d'azur, nous avons inventé des noms de plantes et d'herbes petites. Nous nous sommes attendris à l'idée de ces végétaux infimes. Nous avons eu envie de les chanter, nervure à nervure, et ainsi nous les avons chantées. Nous n'avons presque jamais raconté les histoires que l'ennemi attendait de nous. Le plus souvent, nous les avons racontées de loin, en adoptant un point de vue formaliste, littéraire en excès, qui ne correspondait guère à notre goût. Nous avons contourné les anecdotes centrales afin de ne pas renseigner l'ennemi sur ce qui nous émouvait vraiment et nous plaisait. Nous avons évité de traiter les sujets que nous avions en tête. De notre mémoire véritable, nous n'avons extrait que des informations anodines. Nous n'avons pas livré à l'ennemi l'état de notre orientation politique. À nul moment, nous n'avons reproduit devant l'ennemi le détail des débats et des mots d'ordre sur quoi, avec tant d'acharnement, les arrière-commissaires s'excitaient dans les sections secrètes des arrière-commissariats. Nous avons en permanence dévidé de faux souvenirs d'enfance, d'inutilisables biographies, des histoires gigognes qui déconcertaient l'ennemi et le frustraient, qui ne lui livraient rien, qui dépistaient ses chiens spécialisés et ses chiennes. Nous avons feuilleté des images d'enfance à des moments inopportuns. Nous avons inséré des récits de rêves là où nos interlocuteurs voulaient des aveux. Nous n'avons pas déclenché l'action en respectant l'horaire de l'ennemi. Souvent, nous avons déclaré que nous faisions des efforts pour être clairs. Avec une très gesticulatoire bonne volonté, nous avons développé des intrigues d'amour vaguement policières, donnant l'impression que nous avions enfin accepté de collaborer avec la culture de base de nos tortionnaires. Mais en substance, nous avons usé la capacité d'écoute de nos tortionnaires et découragé leur intelligence. Nous l'avons noyée sous de fastidieuses scènes de guerre noire, d'espionnage, plaçant nos espions ou nos soldats dans des situations inconcevables. Nous avons construit des paysages nocturnes qui parfois restaient baignés d'obscurité de la première à la dernière phrase. Nous avons accumulé les scènes nocturnes que nous n'avons pas éclairées. Nous avons forcé sur la non-lumière, en dépit des exigences de la police et en dépit des coups. Nous n'avons pas intégré à notre comportement l'idée qu'on nous demandait d'obéir ou de répondre. Constamment, nous avons esquivé le dialogue avec ceux qui recevaient nos proclamations ou nos déclarations écrites. Quand on exigeait de nous une description non allégorique de nos crimes, nous avons peint des criminels au repos ou à la retraite ou en exil, des personnages qui ne s'intéressaient qu'aux nuages. Et nous avons essayé de reconstituer la beauté fluctuante ou fixe des nuages. Jamais nous n'avons accepté d'écrire, de hurler ou de dire ce qu'on espérait entendre de nous. Préférant inventer aux heures critiques des grands oiseaux qui disparaissaient couple après couple dans le contre-jour et aimant follement ces oiseaux, feignant de les avoir connus, de les avoir bien connus, d'avoir étudié leurs jacassements et leurs cris, d'avoir avec eux souffert. Et quand je dis souffrance, je ne parle pas à la légère et à chaque fois que l'un ou l'une ou l'autre d'entre nous périssait, notre récit a marqué une pause. Nous nous sommes arrêtés, nous nous sommes intéressés à plus minuscule encore que notre aventure, à moins signifiante encore, à plus absurde que notre souffrance. Et nous avons rugi à haute voix les débris de textes qui nous empêchaient de croire que notre douleur avait de l'importance. Nous les avons crachés avec ce qui subsistait de notre haute voix en plein malheur. Nous avons empli le paysage avec de brusques enthousiasmes envers le microscopique, envers le sordidissime. Nous avons élaboré de méticuleux rapports sur le pitoyable et sur le rien. nous nous sommes dressés en faveur du moins que rien. Nous faisions cheminer notre narration sur des chemins traversiers. Nous modifions le braillement inhumain qui nous venait en gorge et nous en faisions une variation que l'ennemi renonçait à lire et qu'il n'avait même pas le désir de déchiffrer tant elle était éloignée de l'atroce plainte qu'il s'était préparé à comprendre. Enfin, nous avons toujours parlé d'autre chose. Toujours.
Les derniers jours, Lutz Bassmann les passa comme nous tous entre la vie et la mort.
On vivait plus ou moins en 1997. Au-delà des murs de la prison, ce devait être une période de creux éditorial ou de reflux vers ce que la littérature officielle considère elle-même comme le pire. Deux chroniqueurs célèbres avaient été envoyés chez nous par un magazine culturel à grand tirage que subventionnaient, je crois, des industriels mafieux de la viande et du bâtiment. Je dis « je crois ». Mais on aura compris qu'il s'agit là aussi de pure convention. La première personne du singulier sert à accompagner la voix des autres. Elle ne signifie rien de plus. Sans dommage pour la compréhension de ce poème, on peut considérer que je suis mort depuis des lustres et ne pas tenir compte du jeu.
Pour un narrateur post-exotique, de toute façon, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre la première personne et les autres. Et guère de différence entre vie et mort.
Mais serrions les problèmes. Je parlais de ces deux salariés de l'idéologie dominante, de ces deux virtuoses du journalisme, du vedettariat et de l'écriture. Un homme et une femme qui, pour l'occasion, avaient mis en sourdine leurs convictions mercantiles et avaient tenu à revêtir devant nous quelques oripeaux intellectuels non veules et non totalement orthodoxes.
Il voulait, annonçait-il, enquêter sur la littérature carcérale et apporter un éclairage neuf et favorable sur les romances dont plusieurs volumes avaient paru à l'extérieur de la prison sous la signature d'un de nos prête-noms.
Je pense aussi que les renseignements généraux désiraient évaluer l'état de nos forces et se faire une opinion sur la persistance ou l'extinction de nos capacités de nuire, sur les chances de survie de la propagande égalitariste au-delà du changement de millénaire.
Les journalistes se présentèrent en insistant sur leur qualité de romancier, parfois en délicatesse avec le pouvoir. Car, comme dans toutes les sociétés totalitaires, ceux qui se satisfont de la censure sont aussi ceux qui ont le droit de s'exprimer officiellement contre la censure. Et ils articulèrent leur nom d'auteur avec une humilité désinvolte, comptant peut-être nous impressionner avec leur notoriété, avec la valeur que les organismes de crédit et le public leur reconnaissaient. Mais comme ce genre d'autorité nous indifférait, et comme leur magazine n'avait jamais suscité chez nous que mépris, ils redevinrent devant nous ce qu'ils étaient dans le réel et dans le monde médiatique, deux mercenaires de la parole, Newki et Blotno. Newki la femme, Blotno l'homme, capable de théoriser sur l'art et de philosopher sur le destin des peuples, capable pendant quelques heures de s'adapter à notre vision du monde, de dialoguer avec nous et même de se rendre sympathique. Capable de tout.
Ils disposaient de 5 ou 6 après-midi. Ils travaillèrent chez nous en alternance, selon un programme qu'assez vite nous contrariâmes. Anonyme, imperturbable, muet, un policier assistait aux séances et nous enregistrait sur un magnétophone à bande. Nous étions convoqués au parloir les uns après les autres. Le blottenot se tenait en face de nous avec un carnet et un stylo, sans doute parce qu'on l'avait prévenu que seule la police aurait le droit de réécouter l'enregistrement et de s'en servir. Comme il griffonnait beaucoup, il ne levait guère en notre direction ses yeux. Des yeux où luisait une relative absence d'insincérité, très bleus, d'un bleu myope et presque de prusse. Si j'écarte cette couleur frappante de l'iris, je me sens aujourd'hui impuissant à décrire son aspect physique, les particularités de sa tête. À la rigueur, je crois me souvenir de sa corpulence. Il était de taille moyenne. La gnocchi est moins inexistante dans ma mémoire. Il me semble qu'elle avait une poitrine de vache ou de vachère. Ses seins avaient causé sur moi une impression, mais je ne me rappelle plus exactement laquelle. Là, d'ailleurs, ne réside pas l'intérêt de...
Lutz Bassmann passa le premier et ne desserra pas les dents. Afin de rompre le silence qui s'éternisait, la gnocchi résuma devant lui les étapes que, selon elle, le post-exotisme avait parcourues depuis « Des anges mineurs », le premier roman de Maria Clementi, composé en 1977. Plusieurs générations se sont succédées, continuait la gnocchi, fondue en une même idéologie de grande lessive égalitariste, radicale et implacable. Mais ces générations ont reflété, disait-elle, des moments différents, des fractures avec l'histoire contemporaine, dont la largeur a évolué avec le temps.
À l'instant où elle allongeait le « deux fractures », une bouffée fétide se faufila sous la porte du parloir, depuis le sas de surveillance, et nous entoura, elle, le preneur de son et moi. Je me rappelle la composition de ce bouquet. Carton mouillé, rat d'égout, mousse caverneuse de pissotière, certainement celle du haut de l'avenue, fruits de mer pourris, buanderie du quartier des droits communs, rouille, vase d'égout, ferraille, soupe de légumes, friture. J'analysais et j'énumérais tout en feignant de boudeusement méditer. Je regrette de ne plus savoir si, à l'époque, les seins de la journaliste s'arrondissaient d'une façon qui me déplaisait ou me charmait, et si ce que prisonniers et prisonnières devinaient de son corps à travers la grille et à travers ses vêtements, ils le regardaient avec avidité ou non, ou ennui. Le souvenir de nos réactions aurait ajouté un peu de vie à cet exposé qui était asséné d'une voix lourde, comme si la gnocchi s'adressait à un auditoire studieux et sans humour.
La première génération comptait les figures historiques de la guérilla, discourait la gnocchi, celle qui n'était pas morte les armes à la main et qui un jour avait cru que les torrents prolétariens déferleraient dans les capitales. Que les peuples les plus pauvres se rallieraient aux utopies les plus incendiaires et triompheraient, et qu'ils les mettraient en œuvre à l'échelle de la planète. Maria Iguacel, Maria Arostegui, Julio Sternhagen, Maria Clementi, Maria Echenguyen, Irena Echenguyen, Maria Schrag, Vernieri, Maria Sudayeva, Wolfgang Gardel, Jakub Kaczbakiro, pour ne citer qu'eux, avaient espéré cela. Une fois incarcérée, cette armée vaincue, ce noyau dur de l'égalitarisme, a versé sous forme romanesque sa passion non éteinte. Sous forme échevelée, sous forme somptueuse, fantastique, exubérante, sous forme tenante.
Il est évident que la gnocchi, tout engluée qu'elle était depuis toujours dans l'esthétique des best-sellers, ne parlait pas en ces termes. Mais je me rappelle qu'elle tentait de dérider Bassmann en le flattant, en nous évoquant avec grandiloquence. Je remarque aussi qu'elle évitait de nous traiter d'assassins ou de monstres. C'était une période, développait-elle, où l'espoir d'un bouleversement mondial toujours quelque part vibrait en surface de vos textes.
Exact, gnocchi, pensais-je. Les bases de la littérature post-exotique furent élaborées durant la décennie 70. Durant ces années qui, en dépit de la défaite, restaient enceintes de possibles renouveaux et de possibles encore. Des années de secrets vivaces, lumineux, malgré le plomb et malgré la carcérale violence, me disais-je.
Tandis que le discours didactique de la gnocchi se répandait, Lutz Bassmann n'avait pas ouvert la bouche. La gnocchi bombait ses chairs de mammifères sensibles à l'épopée, et elle s'agitait, récitant ce que sans doute elle avait déjà donné sous forme de causerie télévisuelle ou de conférence devant un parterre de policiers ou d'universitaires. Le calendrier indiquait une date printanière, disons avril, disons le 13 avril, puisque les fausses précisions sont indispensables, puisque le fait de prendre la parole oblige à mentir, puis à fouiller avec minutie dans ses mensonges. Le 13 avril ou le 14. La pluie fouettait les murs de la prison, comme pendant les journées qui iraient précéder la mort de Lutz Bassmann, comme en ce printemps à quoi j'ai déjà fait allusion en début de prose.
En surface de vos textes, reprit la gnocchi en rajustant une bretelle de son soutien-gorge.
La pluie en intensité augmentait. Une main avança et affina quelque chose sur le magnétophone. Quelque pectoral que fût l'emphase de la gnocchi, la police restait de marbre, manifestement ne s'intéressant qu'à la qualité optimale du son.
La chaga, le romance, les entrevoûtes, la féerie, continua la gnocchi en se secouant, et les sous-genres tels que le récital, la leçon et le nara sont présents dès les premières manifestations lyriques des écrivains de la première génération.
Et le murmura, pensais-je, voilà qu'elle oublie le murmura, cette grosse vache.
Et nous nous interrogeons, Blotno et moi, dit la gnocchi, n'y a-t-il pas là un phénomène extraordinaire? Des genres littéraires nouveaux existent immédiatement sous un aspect qui n'a rien d'expérimental, un aspect viable qui ne changera plus par la suite, sinon sur des détails. N'est-ce pas curieux ?
Oui, dit Helen Dawkes, en effet. La pluie s'abattait sur la prison. Poussée par des bourrasques de vent, elle mitraillait les murs énormes, la verrière, comme si elle voulait les ravager, ou comme lorsque des commandos de héros extérieurs lançaient de suicidaires assauts pour libérer les détenus, ce qui depuis longtemps n'advenait plus.
Helen Dawkes s'était substituée à Lutz Bassmann, qui n'avait pas coopéré. Elle ressemblait à une pensionnaire d'asile psychiatrique, à une de ces émouvantes insanes que si souvent on voit errer dans notre romanesque post-exotique. Elle était assise sur le tabouret vissé dans le béton, elle appuyait ses deux coudes sur la tablette destinée à recevoir ses coudes ou ses mains, et dépeignée, froissée, enlaidie, elle ne donnait pas l'impression d'avoir jamais été une grande criminelle, alors qu'elle avait criblé de balles une dizaine de hauts responsables du malheur, et que l'idée de s'en repentir ne l'avait pas effleurée une seconde depuis l'heure. De vie à trépas entre ses mains étaient passés des riches de pays pauvres et des riches de pays riches, des trafiquants de chair humaine, des propriétaires d'empires. Personnellement, je ne vois pas moi non plus pourquoi elle aurait dû éprouver des remords. Et vous ? Mais revenons à ce colloque, au parloir poisseux, au bruit de la pluie. Helen Dawkes émettait un murmure pensif, si ténu que le policier et la journaliste s'inclinaient vers la grille selon un angle comparable dans une même contorsion d'auditeurs frustrés.
La chaga, oui, marmonna Helen Dawkes. Cette séquence d'égale longueur. L'incertitude des choses, l'illusoire, la beauté extrême des messages non transmis, la splendeur des mythologies non désobscurcies.
Exprimez-vous sur cela si vous voulez, demanda la gnocchi, puisque nous y sommes. Vous-même avez écrit un ensemble de chagas, La mort qu'on croise avant l'amour. Un recueil très tragique, très classique, je crois.
Les, corrigea Helen Dawkes d'une voix plus nette. Puis, sans attendre les excuses de la journaliste, elle retourna à son chuchotement. Les morts qu'on croise. De toute façon, je n'ai rien à vous dire. Nous n'avons pas de langue critique commune. L'hyperclassicisme de la chaga ne coïncide avec aucune des normes de votre académisme. Les chagas ne peuvent être décryptés que si on pose en principe des valeurs et des expériences que votre littérature n'a jamais reconnues comme siennes. Je dis votre académisme, votre littérature, mais ne voyez pas là une élégance destinée à tendre entre vous et nous, je ne sais quelle passerelle paradoxale, mondaine. Vous savez, Le gouffre qui nous sépare ne se franchit pas. Votre littérature et la nôtre ne dialoguent pas. Par paresse intellectuelle, vous considérez que le post-exotisme constitue un courant esthétique parmi d'autres, une variante bizarre de post-modernisme magique. Alors que le post-exotisme est à votre littérature ce que...
Sa voix se brisait, repartait, les morceaux de phrases se chevauchaient. Elle ne faisait pas effort pour que ses idées victorieusement se superposent aux crêlures de l'orage. La nuque griffonnait, entendant l'oreille. Elle transcrivait. Elle réussissait à transcrire ce flux infime.
Rien n'a été éveillé par les chagas de la première génération. Roca Ellen Dox.
Et elle se leva. Sa voix avait baissé encore en intensité. Et pourtant, une terrible violence s'y était introduite. Terrible et amère. Maintenant, elle stationnait en face du grillage, ne fixant les yeux ni sur la gnocchi, ni sur son ombre. Les membranes électroniques du magnétophone n'enregistraient guère plus que des bruits de lèvres, mais il était évident qu'Ellen Dox hurlait.
« Aucun incendie, dans quelque sphère que... »
criait-elle, comme dans un film muet quand une imprécatrice maudit une civilisation de l'arrogance.
Les auteurs de cette prose fondatrice sont morts, exécutés dans leurs cellules, pendus, étranglés haut et court, avec des ceintures qu'on leur avait confisquées des années auparavant, le jour de leur arrivée, et qui par miracle, ou suicidés au jerrycan, ou au couteau de chasse, alors que les seuls ustensiles dont on nous autorise la possession sont une cuillère et un peigne.
La gnocchi avait un peu reculé, elle était là, derrière les croisillons, effrayée par le déversement de ce silence. Ses mains de journaliste célèbre tremblaient. Sa poitrine d'auteur à succès ne se calmait pas. Ses seins avaient à présent quelque chose de consterné, d'inutile. Il faisait chaud et humide, je l'ai déjà dit. Tout le monde était trempé de sueur.
Ces textes ont circulé dans des conditions difficiles, déclara Yassar Tarchalski, quand Ellen Dox eut été reconduite au quatrième étage, cellule 1372. Le colloque reprenait après une journée d'interruption. Les gardes de Churm avaient rangé leur matraque, l'assistance s'était ressaisie, le policier s'était réinstallé devant son magnétophone, l'orateur répondait aux questions, le déluge marquait une pause. On entendait les gouttières teinter. La ville s'ébrouait derrière les barbelés qui hérissaient les fêtes et les murs d'enceinte. Un oiseau poussa un appel solitaire. Deux notes tenues, fortes, spectaculairement harmonieuses.
« Tiens, fit Tarchalski, vous connaissez cet oiseau ? Il y a des années qu'il chante ainsi à cette époque, d'avril à juin, ensuite il disparaît. »
Tarchalski imita l'oiseau.
« Vous ne savez pas de quel oiseau il s'agit ? Insista-t-il. « J'ai remarqué ce cri pour la première fois dans une forêt du Sarawak en Malaisie, au temps où je me promenais en liberté et où il y avait des forêts. » Un cri qu'on ne peut confondre avec aucun autre, et je supposais qu'il venait d'une espèce sylvestre, équatoriale, mais non, finalement, puisque... Il siffla encore. « Non, dit le Bloutnou, qui avait remplacé la gnocchi. Autrefois, je savais identifier certains croassements, mais celui-là, non. » À son tour, il imitait l'oiseau. « Non, ça ne me dit rien, fit-il. « Ce n'est pas un croassement, dit Yassar Tarchalski. Le policier se pencha sur le magnétophone. Son impassibilité traversait une crise. Il avait haussé les épaules. L'ornithologie l'exaspérait et ne le cachait pas.
« Il faudra que nous parlions de votre sympathie pour les oiseaux, pour les animaux, » dit le Blotno. « C'est un thème qui a son importance dans le post-exotisme. Les discours aux animaux, l'animalité de nombreux personnages, la fraternisation avec les oiseaux et même avec les insectes. C'est important, n'est-ce pas ? Mais gardons cela pour plus tard. J'aimerais d'abord revenir sur la question du formalisme. Les auteurs du quartier de haute sécurité, dès les années 70, ont exploré une demi-douzaine de formes nouvelles. Dès leur premier texte, pourquoi une telle frénésie ?
Oh, dit Tarchalski, il prévoyait l'horreur qu'allait représenter la clôture à perpétuité. Il s'organisait en fonction du futur. La frénésie. Avec frénésie, ils délimitaient les territoires de leur liberté intérieure qui se trouvaient correspondre aux territoires de leur propre littérature. Il y avait des sujets qui leur tenaient à cœur, des anecdotes où ils sentaient que leur exil serait plus doux. Et dans le même temps, ils cherchaient à définir des supports littéraires qui ne pactiseraient pas avec vous et qui ne reproduiraient aucune de vos traditions, aucun de vos conformismes ou anticonformismes officiels. Ils ont inventé des formes vides que vous n'aviez jamais eu l'occasion de polluer et les ont remplies avec des visions auxquelles votre sensibilité est étrangère. Là aussi, par là aussi, ils étaient entrés en dissidence. Ils ont inventé le genre romance pour ne pas être mêlés à vous ni à vos tentatives de rénovation du roman, à toutes les jongleries boutiquières des avant-gardes institutionnelles. C'est une démarche d'aversion, vous saisissez ? D'aversion et de malveillance. Ils ont rattaché leurs œuvres à des catégories nouvelles, romance, chaga, etc. D'abord et avant tout pour affirmer qu'en dépit de vos rodomontades, vous restiez les représentants et les chiens loquaces de l'ennemi, les amuseurs de l'ennemi, les paroliers d'un monde à détruire. Suis-je assez clair, Blotneau ? Vous voulez que je diversifie encore les vocables ?
La pluie, sans crier gare et sans faiblesse, se remit à tomber. D'énormes charbonneuses nuées crevaient au-dessus de nous. Et dans le parloir, de nouveau, une vapeur chaude tournoya, dont la texture transparente et un peu baveuse évoquait l'haleine d'un chien malade. La luminosité avait baissé. De l'autre côté de la grille, le jaune des lampes du magnétophone gagnait de la substance.
Titrer un livre roman, c'était déjà en soi une démarche d'adieu violent à votre univers, dit Tarchalski.
Le Blotneau sombrement acquiesça. Son regard bleu avait perdu toute franchise. Sans décoller les yeux de son carnet, il infligeait au papier des écorchures, des graffitis en pattes de mouche. Ses pages se couvraient d'une matière abondante, ce qui aurait dû le satisfaire, mais il paraissait déçu par la tournure que prenait le colloque. Je dis cela en pensant à la sueur qui lui coulait le long des joues et qui lui donnait l'air paniqué d'un commerçant en train de rater une grosse affaire. La conversation avec les écrivains post-exotiques ne se nouait pas, ne ressemblait nullement à un échange. Voilà ce qui tracassait le Blotneau. Il allait être difficile de traduire ces manifestations de mauvaise humeur, de les adapter au goût du public. Ce qui était dit dans le parloir ne serait pas apprécié à l'extérieur. Pour ne rien arranger, la personnalité de Tarchalski lui échappait de plus en plus. Sa brutalité trop polie l'avait indisposé tout d'abord, et maintenant elle l'angoissait. À voir avec quelle courtisane demande de connivence le Blotneau jetait des coups d'œil en direction du preneur de son. On saisissait combien la police et la notion de police étaient importantes pour la tranquillité physique et mentale de la critique officielle.
Tarchalski transpirait à grosses gouttes, lui aussi, mais pour des raisons différentes. L'adrénaline lui barbouillait le sang. Elle exaspérait en lui les élémentaires besoins d'indignation et de mépris qu'il avait refoulés depuis des mois, faute de leur trouver un exutoire, car depuis des mois, il n'avait pas eu d'interlocuteur. Il quitta le tabouret, il s'approcha du grillage comme s'il avait l'intention de l'arracher en rugissant. Aussitôt, derrière la porte qui communiquait avec le sas du parloir, retentit la voix du surveillant chargé de la discipline, une voix insolente, très dure. Je n'ai plus en mémoire le nom de cet homme. Batirzian ou Kotter ou Otchapchenko ou Müller. Disons que c'était Müller. Dimitri ou John. Un Müller a travaillé dans le quartier de sécurité à cette époque. Dans un essai intitulé « Que personne ne sorte », Elia Finke a dressé une liste complète des gardes-chuômes qui ont sévi chez nous de 1975 à 1999 et Müller y figure. Avec une haïssable insolence de dompteur, Müller brailla. Tarchalski, retourne à ta place sans faire de grabuge, ou j'envoie l'équipe. Les pupilles du prisonnier s'étrécirent. Elles se vrillèrent méchamment sur la lampe jaune du magnétophone. Le prisonnier blêmit, ses mains blêmirent et se figèrent à 1 centimètre des croisillons métalliques. Et quand je dis « votre univers », souffla-t-il. Puis il se domina complètement.
Il fit semblant de se dominer. Peut-être parce qu'il avait envie de contempler encore quelques minutes, comme dans un vivarium, ce représentant d'une espèce obscène, ce blotno non erectus qui palpitait de l'autre côté de la grille. Ou peut-être parce qu'il désirait fausser les jugements que d'éventuels analystes de l'administration pourraient encore insérer dans son dossier, et laisser croire que parfois il obéissait à certaines menaces verbales, qu'il était sensible à la réprimande. Il alla se rasseoir sur le tabouret. Il se renfrogna et se voûta, et pendant un moment, nul ne prononça une parole.
La pluie avait envahi l'espace sonore. Elle le striait. Elle lui imposait ses écailles filantes, ses mélodies bourbeuses. Elle le quadrillait, elle l'étouffait.
Tarchalski restait passif, pétrifié sur son siège indéplaçable. Il examinait la créature qui respirait à moins d'1 mètre de lui, lâchement soumise à ses maîtres lointains ou proches. Après 1 minute, le journaliste fit un geste imprécis, comme s'il effaçait devant lui un écran imaginaire, et ses iris de nouveau s'orientèrent vers Tarchalski.
Je me dis aussitôt que leur teinte de base répandait plus de prusse que de bleu. Je me refusais à croiser ce regard, je me contentais de scruter la peau qui l'entourait, les commissures, les tempes, les sourcils, les joues.
Changeons de sujet, proposa le journaliste, et il s'épongea le front, le nez, le dessous des mâchoires. L'air à tous paraissait vicié, dans la pièce régnait une odeur de paix, de chemise sale.
Quand je dis votre univers, je sais ce que je dis, chuchota Tarchalski.
Hier, devant ma collègue, intervint le blotno avec une petite pointe d'autorité. Ellen Dokes a déjà fait une communication sur cette question. Elle nous a déjà confié son opinion sur ce qui nous sépare en littérature et en politique, sur l'incompatibilité existentielle entre vous et...
Je me doute de ce qu'elle a pu vous dire, gronda Tarchalski, mais que cela vous plaise ou non, il faut que je le répète. Nous le répétons sans arrêt, cela fait partie du post-exotisme.
Il quitta son siège une nouvelle fois pour aller se plaquer contre la grille. Le temps consacré aux observations naturalistes s'était écoulé. Anticipant sur ce qui allait suivre, le policier avança le bras pour diminuer la sensibilité de l'appareil. Une demi-seconde passa. Dehors, un éclair zébra l'ombre plombée qui remplaçait le ciel. Maintenant, Yassar Tarchalski agitait le grillage avec une rage qui se voulait théâtralement dévastatrice et qui, dans le fer, en vain, s'éparpillait dans le béton, dans les bruits du déluge et du tonnerre.
« Nous sommes ailleurs. Nous ne vous parlons pas. Vous m'entendez, Blotno ?» hurla-t-il. « Ailleurs. Nul d'entre nous ne communique avec vous. » Il avait adopté les attitudes qu'on prête aux fauves des jardins zoologiques pendant que leur désespoir ou leur colère, et tandis que les matraques s'abattaient, ses phrases se désorganisèrent. « Quand je dis l'ennemi, vous, je sais ce que... »
Le blotno se tamponnait les joues avec un mouchoir. Il avait assisté sans commentaire au tabassage de Tarchalski. Il y eut un silence. Et si nous en venions enfin aux thèmes animaliers, à la fraternisation avec les bêtes, continua le blotno, si nous nous intéressions à cela, hein ?
La question s'adressait à Irina Kobayashi, que les gardiens venaient de traîner jusqu'au tabouret. Une grosse averse cinglait la fenêtre en verre armé, comme si quelqu'un jetait dessus des gravillons par grosses poignées avec une obstination stérile. Quel jour était-on déjà ? Peut-être le 16 avril, puisque nous n'avions pas atteint encore le 17, date anniversaire du suicide de Wolfgang Gardel par le feu dans la cellule 234. Irina Kobayashi éternua. et ensuite elle sortit de sa poche de pantalon un carré d'étoffe dans quoi elle se nettoya les narines.
Nombreux sont les auteurs post-exotiques qui insèrent une présence animale au cœur de leur narration, dit le journaliste. Hier, Yashar Talsatsky se préparait à exposer sa théorie sur le sujet, mais l'entretien a dévié. Nous avons été interrompus. Il a juste abordé le thème des oiseaux, de ses expériences dans la forêt, dans le monde équatorial. C'est obsessionnel, pour lui, pour vous, de toute évidence. Les oiseaux, mais pas seulement. D'autres animaux plus gros ou plus petits, selon les histoires.
Irina Kobayashi leva sur lui des yeux que la fièvre avait jaunis et embrumés. Elle était malade.
Insectes, araignées, crabes, énumérait le Blotno. Fréquemment, vos narrateurs prononcent des harangues devant des bestioles de ce genre. Et il y a aussi ces personnages bizarres, dont la non-humanité est manifeste, à qui vous confiez un rôle central. Ils prennent la parole et ils dirigent la fiction. Les exemples...
Le Blotno feuilletait son carnet à la recherche de titres incontestables, mais ses notes ne l'aidaient pas. Il s'était égaré. Le papier bruissait. Il se troubla.
« Les exemples ne manquent pas, dit-il. Souvent, on ignore à quelle espèce précise et à quel ordre animal les héros appartiennent, dit-il encore. »
Irina Kobayashi laissa expirer le bredouillage du journaliste. Dehors, la pluie s'épanouissait en rythme et en sous-rythme, en grenaillage à 7 ans, en éclaboussures ternaires. Elle écouta cette musique tout en jaugeant ce fantôme du pouvoir officiel dont l'intelligence butait sur les éléments les plus lumineux du post-exotisme. « Et vous » demanda-t-elle.
« Quoi, moi ?» sursauta le Blotno.
« Dehors, » dit Irina, « votre monde n'est rien. Votre monde est un enfer pour les humains aussi bien que pour les animaux, un cirque infernal parmi les autres, un exemple de l'illusion et du rien. »
À peine gercée par la fièvre, la voix d'Irina enflait soudain, une voix superbe de cantatrice dont les inflexions nous faisaient frémir à chaque fois que depuis la cellule 1459, elle parcourait le 5e étage du bloc de haute sécurité.
Et là-dessus, poursuivit-elle, vous avez dans l'intention de collaborer avec les responsables du malheur, avec ceux qui vous autorisaient à exister mercantilement aux premières places, vous avez greffé du romanesque antidépresseur, de la parole parfumée, tout un arsenal de... Elle s'était mise debout, comme toujours quand une héroïne ou une insane du post-exotisme commence à apostropher le rien.
La bobine du magnétophone s'emballa au même instant. La bande était terminée ou avait craqué. Le policier précipita vers le mécanisme son buste, sa physionomie de cogneur, ses mains de cogneur.
« Et vous, Blotno, comment ? Blotno, quoi ?» dit Irina Kobayashi. « À quel ordre appartenez-vous ? De qui êtes-vous l'aboyeur ? Qui vous nourrit ? Qui êtes-vous ? »
Voilà dans quelle ambiance se déroulait ce colloque. Selon l'endroit que nous avions atteint, il y avait, au long des galeries que nous empruntions pour rejoindre le parloir, des rires ou des pleurs de la pluie et du vent. Je prenais plaisir à cette promenade dans les coursives d'un bateau en tempête, déplorant l'absence du roulis et titubant doucement pour le réinventer. Voilà dans quelle ambiance se déroula ce colloque. Quel genre d'avancée dans l'histoire des littératures fut accompli grâce à lui.
Irina Kobayashi trépassa la même année d'une hémorragie que quelqu'un avait provoquée sur sa personne en lui taillant dans les poignets jusqu'à l'os. Comme toujours, lorsque l'un des nôtres était assassiné, nous constituâmes un collectif portant son nom. Sa voix vibra avec la nôtre, dans la nôtre. Sa mémoire continua à exister, à remuer des souvenirs que nous pouvions nous approprier et elle continua à fabriquer des images où nous nous déplacions avec bonheur, des rêves qui niaient le réel et qui le subvertissaient.
Les deux dernières œuvres d'Irina Kobayashi sont admirables. Basses eaux, eaux très basses. Un romance sur l'extermination, ample, symphonique, bouleversant. et Verbiage dangereux, un recueil d'entrevoûtes lyriques, lui aussi d'une splendeur à couper le souffle.
Plusieurs d'entre nous disparurent à cette époque. Jean Corassan, Verena Nordstrand, Rita Hou, William Lethbridge, Vasilisa Lukacik. Comme pour tous ceux qui les avaient précédés dans la liste des morts, nous leur rendîmes hommage. Dans le quartier de haute sécurité, les survivants ont toujours considéré qu'ils pouvaient servir de support vocal et physique à l'intelligence de ceux qui ne répondaient plus aux appels.
Par exemple, nous ressuscitions la veine poétique de Verena Nordstrand, crachant vers le monde de l'ennemi ses imprécations et ses slogans inimitables. Où nous imitions le style de Vasilisa Lukacik pour faire flamboyer des récitats que nous disions devant le carrelage sanitaire de nos cellules. Ou encore, nous mettions en scène Jean Corassan et Rita Hou dans des entrevoûtes, des romances. De tous et de toutes, nous nous efforcions de prolonger ainsi la présence terrestre. Les personnalités s'échangeaient, les signatures se mêlaient, comme dans l'amitié on mêle les sangs. Il nous arrivait d'empreindre le nom des trépassés sous des textes que nous venions de composer, ou à l'inverse, nous revendiquions haut et fort des crimes ou des livres dont nos frères et sœurs disparus avaient été les auteurs. Nous passions notre temps à soliloquer de cette façon, entre vie et mort, toujours sachant distinguer au secret de la moindre phrase ce qui était issu de l'hétéronymie et ce qui participait de l'orthonymie, mais ne nous souciant guère d'élaborer une réflexion sur le sujet.
Il était pourtant souhaitable et utile d'approfondir la question. Je veux dire utile pour le post-exotisme, pour notre littérature. Aux alentours de ce printemps-là, le dernier qu'Irina Kobayashi eut à traverser, Lutz Bassmann s'attela à cette tâche théorique. Il inventa les concepts de voix muette, de sous-narrateur, de paroles fictives, de contre-voix, de voix morte, de surréalisme, de polychronie, d'apnée narrative, etc. Et toutes ces notions aussitôt facilitèrent l'analyse de nos textes et nous aidèrent à les concevoir et à en améliorer l'efficacité mélodique et à les aimer mieux encore. Elle collait à la nature véritable de notre poésie romanesque et elle permettait d'en évaluer les réussites et les échecs, exercice sur quoi peinaient les outils que parfois nous empruntions à l'attirail de la critique officielle.
Au moment où le millénaire s'achevait, plusieurs débats eurent lieu qui enrichirent la terminologie proposée par Bassmann. La manière dont ces débats se déroulaient a été dépeinte dans des romances telles que Sommation numéro 0, Une poule chez Bloody Mongo ou Autopsie d'une Coréenne. Aussi n'évoquerons-nous pas ici une nouvelle fois comment nos livres circulaient en dépit des interdictions et des obstacles matériels et malgré les maladies que la perpétuité provoquait en nous, malgré cette pesée du temps qui brouillait nos perceptions et accélérait notre décrépitude physique et psychique. Lutz Bassmann avait disséqué des techniques déjà existantes. Ces définitions s'appliquaient à la littérature post-exotique depuis ses origines. Elles éclairaient tous les ouvrages romanesques qui avaient précédé, les ruminations et les agissements souvent ambigus des narrateurs. Elles furent mises en pratique, elles furent intégrées sciemment dans le processus de la création poétique par des auteurs de la troisième et de la quatrième génération tels que Raya Osorgina, Oleg Damtiou, Mario Hinz, Eli Kronauer, Sonia Velasquez, Hans-Jürgen Pizarro, Manuela Drager et bien d'autres.
Erdogan Mayayo, dans une causerie didactique chuchotée juste avant qu'un poignard de parachutistes sous le lavabo de la cellule 891 le fasse taire, avait expliqué combien la conscience d'être entre soi influait sur les choix structurels du post-exotisme. L'entre-soi conduisait à un langage et à des images capables de trouver dans notre propre huis clos leur lumière, leur nuance, leur chaleur, leur histoire, leur fonction. La conscience d'être entre soi faisait table rase des normes architecturales que dehors la foule des newkies et des blotnos avait décidé de ne modifier jamais qu'avec une extrême prudence, par peur d'une chute des ventes ou par naturelle moutonnerie.
Lutz Bassmann parlait d'un hermétisme limpide qui caressait nos symphonies romanesques. L'extérieur n'était plus qu'une invention littéraire, un monde virtuel que nous façonnions ou détruisions à notre guise. Cette sensation de liberté intellectuelle infinie venait peut-être aussi du fait que l'extérieur ne s'intéressait plus aux prisonniers du quartier de haute sécurité, ni à leur littérature. Nous avions fini par comprendre que le système concentrationnaire où nous étions cadenassés était l'ultime redoute imprenable de l'utopie égalitariste, le seul espace terrestre dont les habitants fussent encore en lutte pour une variante de paradis.
La prison fut définie par Manuela Drager comme un moindre enfer. Quand l'un de nous était libéré avant terme, c'est-à-dire avant la fin de son agonie, il se donnait immédiatement la mort ou s'arrangeait pour être tué. Il ou elle. Sa nécrologie mettait du temps à nous parvenir car en application d'une vieille mesure policière des années 80, les journaux dont l'administration nous autorisait la lecture devaient avoir pourri au moins 8 mois dans un vieil histoire avant de rejoindre les rayonnages de la bibliothèque. Mais une nouvelle photographie finissait par être épinglée ou scotchée sur nos murs, quelque part sous les parois de cet univers parallèle. Quelque part dans ce lieu fermé où notre utopie, bien au-delà de son naufrage, florissait, croissait radieusement, rayonnait, se reformulait, souffrait de maladies rares, ni infantiles ni séniles, et jusque-là non décrites, s'enfonçait dans des cauchemars, dégénérait, se régénérait, entre deux songes flottait. Nous examinions les portraits de nos défunts et nous leur parlions, ne rédigeant plus nos textes sur du papier, introduisant de plus en plus de silence et de non-dits dans la pâte romanesque avec quoi nous modelions les destins d'êtres qui avaient été pour nous de fraternelles variantes de nous-mêmes. Plus spontanément qu'au cours des décennies précédentes, chacun de nos narrateurs se mit à former avec nous et avec ses propres personnages un moi insoluble. Et déjà nous.
Parce que nous avions parcouru un très long chemin d'isolement, de rumination, nous avions de plus en plus de mal à nous persuader que notre groupe et les gens de l'extérieur appartenaient à la même communauté. Sur le plan génétique, il nous semblait aussi qu'un décalage s'était produit. Nous nous sentions étrangers aux populations humaines que nous côtoyions lors de nos voyages, dans nos livres. Quand oniriquement nous voyagions, quand nous entreprenions de visiter le dehors pour assister au triomphe de l'ordre capitaliste et à ses guerres. Lorsque les échos de massacres nationalistes ou les chiffres de la pauvreté ou autres ignominies nous arrivaient, et il en arrivait sans cesse, nous devions les traduire dans nos propres images et métaphores xénolittéraires pour les supporter et les comprendre. De nouveaux vocables furent élaborés par les derniers porte-paroles pour éclairer cette subtile modification de notre humeur, de nos points de vue et de nos goûts. Dans sa préface à « La chasse au Platonov moqueur », Rebecca Wolf commente les nouvelles stratégies poétiques du post-exotisme en puisant ses concepts dans un manuel de psychologie animale qu'elle a emprunté à la bibliothèque de la prison.
Une étape littéraire nouvelle a débuté. Prenant à témoin des masses et des animaux imaginaires, veillant à ne pas choquer intellectuellement les araignées qui nidifiaient dans leurs cellules, les auteurs post-exotiques continuent à décrire des ailleurs parallèles et un au-delà, comme ils l'ont fait depuis les origines de leur littérature. Mais cet au-delà a changé de nature. Quelque chose a enrichi ou appauvri l'univers mental des détenus surnarrateurs. L'or surnaturel ne peut plus être correctement élucidé ou dépeint avec des techniques d'expression propres à l'humain. J'entends par là l'homo sapiens, mais aussi l'humain en tant que confident. Et et entité de référence.
En face de la population d'essence bipède et d'essence tueuse que la bestialité capitaliste avait comme à jamais charmée, nous nous sentions bipèdes et tueurs nous aussi, mais étrangers, au service d'une civilisation parallèle, porteuse d'une autre intelligence et d'un autre sang. La distance grandissait. Nous nous sentions de plus en plus proches de... Enfin, il ne sert à rien de spéculer sur cette métamorphose que peut-être la première génération eût jugée effrayante et que nous trouvions seulement curieuse. Les romances de Manuela Drager, dont le plus décapant est « Passation de mouroir », sont avant tout des fictions d'une originalité extraordinaire et il serait fort injuste d'en parler comme le ferait un tératologue peu ragoûté par l'objet de son analyse. Après que Manuela Drager eut été immolée par le feu, ses romans ont été remurmurés et rehaletés avec amour par la poignée de détenus qui survivaient encore dans le quartier de haute sécurité. Ils ont été revendiqués sans le moindre soupçon de réticence. J'ai clairement en mémoire la voix de Lutz Bassmann récitant « Départ pour le détachement ». Celle de Maria Sauerbaum exhalant ligne à ligne les chagas de la vertigineuse nostalgie. Celle de... Quelqu'un aussi lisait de façon exténuée son propre chef-d'œuvre, un lama sur la côte est, l'attribuant à Manuela Drager, offrant le bénéfice de son agonie à Manuela Drager.
J'aimerais à présent, puisque j'ai encore la parole, m'exprimer sur les aspects mystiques et monacaux de la solitude post-exotique et sur les liens que nous avons entretenus avec la magie et avec les théories du voyage chamanique permettant de visiter les terres d'avant la mort, d'avant ou d'après la naissance ou la mort. Assortis de variantes sacrilèges, car chacun de nous les adaptait aux exigences profanes de sa narration, les enivrantes divagations du tantrisme ont été l'air spirituel qu'inspiraient et expiraient les personnages du post-exotisme, tandis que l'égalitarisme était le souffle politique que roquaient leurs poumons. J'ignore depuis quand exactement cette double respiration a trouvé son rythme. Hors les murs, en notre adolescence, sous forme embryonnaire, ou plus tard, quand déjà nous avions commencé à progresser sur la voie du crime politique, et quand, après avoir frappé l'ennemi, en rêve, nous regagnions. Quand, couverts de sang, en rêve, nous cherchions refuge et délassement dans de somptueux sanctuaires totalitaires, des mondes imaginaires, palissades sans fin. Encerclés sans faille, protégés de l'inimitié extérieure par toutes les espèces de fils de fer barbelés que l'intelligence ait jamais conçus. Ou plus tard encore, durant nos ultimes voyages réels. Ou plus tard, à l'intérieur du monde carcéral. J'ignore quand. Pour le dire avec netteté, il faudrait fouiller dans des existences lointaines. À présent, trop lointaine, effacée. Remuer une vase mémorielle désormais confondue avec de la charpie onirique, avec une illisible lie. Je me rappelle seulement ces longues semaines que Maria Schnittke consacra à la transmission du bardo Todol.
L'humidité suintait le long des murs, le plafond goûtait, envahi de sombrissimes moisissures. Tout était marbré de mystères noirs. Nous transpirions près de nos portes, l'oreille collée au guichet, murmurant, afin de nous les approprier, les lourdes prières et les réprimandes qui font le livre des morts. Nous recevions cela nuit et jour, sans interruption, avec des moments de révision pédagogique, pendant lesquels le texte était partiellement répété par Maria Schnittke ou par les chaînons suivants de la chaîne sonore qui s'était formée depuis la cellule de Maria Schnittke.
ne pouvions éviter des phases de somnolence ou de sommeil, durant lesquelles le déroulement du texte continuait à s'effectuer, de sorte qu'à notre replongée dans la conscience, quand nous nous ébrouillons de nos vapeurs, l'impression s'imposait que nous avions déjà assisté à la récitation intégrale du bardo Teudol. Autrefois, une autre fois, dans un rêve ou ailleurs, soit que nous eussions été le moine qui lisait le livre au chevet d'un mort, soit que nous eussions gési dans l'immobilité, sous le flot des propos qui décrivaient les mondes, les successifs enfers de l'extérieur et les labyrinthes de l'intérieur, et expliquaient par quelle méthode s'en évader.
Si on veut voir les choses avec objectivité, le bardo Teudol n'aura jamais été pour nous une prose sacrée, un manuel ayant un contenu religieux, délivrant des messages aux initiés et aux dévots. C'est un texte intimement lié aux voies du post-exotisme, une fiction dans laquelle l'ésotérisme tantrique ne dissimule aucune révélation. Le bardo Teudol est un texte post-exotique, destiné exclusivement aux pensionnaires du quartier de haute sécurité et transmis de prisonnier à prisonnier dans une atmosphère d'amour, de clandestinité et de peur. Il est dit par Maria Schnittke depuis la cellule 1157. Et maintenant ?
Maintenant, seul Lutz Passmann pouvait le prononcer encore. Il le murmurait en face de nos photographies, tandis que l'agonie montait en lui comme une marée, et tandis que les odeurs de pourriture augmentaient à l'extérieur de ses sacs pulmonaires et à l'intérieur de ses émissions narratives.
La prison immense gémissait comme un bateau abandonné par les rats, par l'équipage, et qui attendait encore un peu avant de s'abîmer. Dans les couloirs, le vent sifflait, et parfois, prophétisant la dernière phrase sur quoi s'arrêterait le souffle post-exotique, il se taisait. On avait du mal à établir une frontière entre les bruits d'eau émis par le déluge, les râles de Bassman émis par Bassman, les simulacres de souvenirs émis par les photographies de ceux qui avaient été nos surnarrateurs. Le post-exotisme s'achevait là. La cellule sentait le monde décomposé, l'humus brûlant, la fièvre terminale. Elle empestait les peurs que les animaux les plus humbles, et je le regrette, ne trouvent jamais les mots pour dire. Il n'y avait plus un seul porte-parole qui pût succéder à...
C'est donc moi qui...
Il y a 25 ans, c'est bon moment. C'est au moment où, dans la création post-exotique, ça s'appelle Leçon 11, parce que c'est le 11e texte publié depuis les origines, hein, depuis Biographie comparée de Jorian Murgraf, qui est paru en 85. Et il était nécessaire d'affirmer que quelque chose se construisait. Mais au moment où... D'affirmer que quelque chose se construisait, que c'était quelque chose qui était à part, complètement de la littérature officielle, qui avait besoin de se définir parce que dans le journalisme ou dans la critique littéraire universitaire, il était très difficile de définir le caractère littéraire, idéologique des livres déjà publiés. Il était nécessaire de poser ça comme un texte d'affirmation, de rupture avec ce qui, avec l'entourage, avec l'extérieur, hein. Et c'était un geste très solitaire, hein. C'était pas un appel à un regroupement, c'était pas un appel à la création d'une école, d'un courant, d'une tendance, c'était une affirmation. Et c'était une affirmation qui a permis ensuite que le post-exotisme, en tant que qu'édifice romanesque large, fait de 49 livres, 49 titres, soit en vue. Ce n'était pas le cas au moment où le livre « Le post-exotisme en 1800, leçon 11 » a été écrit. Je n'avais pas la vision de ce qui allait suivre pendant les 25 ans, le quart de siècle qui allait suivre. Mais l'affirmation de plusieurs voix, narratives, de plusieurs styles, était peut-être nécessaire à ce moment-là, même, je dirais pour moi aussi, il était nécessaire de dire « vous n'avez encore rien vu », quoi, d'une certaine manière. Et ça m'a aidé beaucoup à faire éclore en publication, à faire éclore dans le monde éditorial les voix de Elie Kronauer, Manuel Adreger, Luz Wassmann. Il y avait un socle à ce moment-là qui pouvait être présenté à des éditeurs, parce que il est bien entendu que le texte que vous avez entendu là tout de suite est un texte de rupture totale et de refus de l'extérieur, mais en même temps ça fait partie d'une construction romanesque qui se situe dans le monde réel, qui place des objets post-exotiques bizarres dans le monde réel, mais qui ne peuvent exister que s'il y a un support éditorial. Et s'il n'y avait pas eu ce texte, je pense que jamais n'aurait été possible la diversification en plusieurs voies officielles du post-exotisme, c'est-à-dire le fait de promouvoir des auteurs autres que la signature Volodine, faire apparaître Manuel Adreger et Elie Kronauer. Pendant 8-10 ans, ils ont existé à l'école des loisirs de façon discrète, presque clandestine, parce qu'ils étaient en dehors de la littérature officielle. Et puis ensuite, à partir de 2010, les voix de Wassmann, Dreger en particulier, ont été affirmées, portées aussi par des éditeurs complices de cette construction. Et il faut, en dehors du texte et de ce qu'il y a dans ce texte-là, si on regarde l'édifice post-exotique éditorial, il n'aurait pas pu exister sans le soutien d'éditeurs sympathisants qui ont accepté ce truc complètement complètement non commerciale, hein, de disperser, disperser plusieurs voies pour construire un édifice. Voilà. Qui est encore en chantier, mais qui va vers sa fin. Hein. Le 44e livre de cet édifice post-exotique, c'est un roman de Manuel Dreger, Cri, qui a été publié exactement avant le confinement, c'est-à-dire que et avant le confinement et la fermeture de toutes les librairies, ce qui représente un aspect formidable au niveau commercial. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Mais bien sûr, ce texte que je n'ai pas relu ni sur lequel je ne suis pas penché depuis 25 ans, m'étonne un peu quand même. Parce que le post-exotisme a été fidèle à ce texte. Voilà. C'était pas une annonce, c'était pas on va faire ça, vous allez voir, mais il y avait tous les éléments, y compris les éléments thématiques, les éléments tout à l'heure dans ce que j'ai lu. Il était question d'oiseaux, de listes d'herbes qu'on retrouve chez Manuel Adreger dans Herbes et Golems, par exemple, des longues listes d'herbes. Le fait de dévier la narration normale vers quelque chose qui est poétique et qui, en même temps, par cette déviance, veut dire quelque chose. C'est ce qu'on ne retrouve pas dans tous les romans post-exotiques, hein, certains sont plus fluides, me semble-t-il.
Vous parliez tout à l'heure qu'il y aurait 49 titres.
Oui.
Est-ce qu'après ça, l'édifice s'arrête? Ou est-ce que vous faites parler les morts aussi? Est-ce que ça va continuer sous différentes voies?
Ben, je serais peut-être mort déjà, moi. Hein. Alors, c'est le problème. Il faut savoir, justement, organiquement organiser ça aussi. Hein. C'est-à-dire, 49 titres. Le 49e est un titre qui s'appelle Retour au goudron, qui se termine par Je me tais, mais qui n'a pas le caractère d'un seul volume. C'est une suite de brochures bardiques, de 343 brochures qui sont regroupées en livraison, mais ça représente plusieurs volumes, et là, c'est beaucoup de travail.
C'est une ruse pour parler.
Pardon ?
C'est une ruse pour parler.
Oui.
C'est ça, pour aller au-delà de 49, finalement.
Non, parce que quand la phrase « je me tais » sera prononcée, c'est comme « il n'y aura pas « c'est donc moi qui ».
Voilà. C'est donc nous qui.
C'est donc vous qui. Ou new qui. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ah, pardon, oui.
En fait, ça se passe dans n'importe quel pays colonisé ou pas forcément. Je ne connais pas tous ces écrivains, alors évidemment, je découvre. Mais. Parce qu'en fait, le roman de lutte contre l'oppression a existé en Amérique latine, a existé partout. Et je me demandais si ça avait une influence sur d'autres.
Non, c'est pas situé. Ça n'est pas situé géographiquement. Dans tous nos livres, il y a un effort pour ne pas situer géographiquement, historiquement, tout en permettant au lecteur, à la lectrice, de se référer à justement les révolutions en Amérique latine, la fraction armée rouge en Allemagne, des luttes de libération nationale diverses. Tous les échecs de l'humanisme au XXe siècle, la Shoah, le nazisme, tout ça, les camps, le stalinisme, tout cela imprègne la matière post-exotique de façon extrêmement puissante, mais sans être nommée, justement pour ne pas réduire ces réducteurs. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle « Le nom des singes » qui se passe dans une sorte d'Amazonie imaginaire. Alors bien sûr, on peut se référer à l'Amazonie, mais c'est pas l'Amazonie. C'est l'atmosphère, c'est le climat, c'est les couleurs, c'est la boue, c'est pas du tout. On ne suit pas une histoire qui pourrait être située historiquement. Mais même si on ne peut pas situer politiquement, ça reste toujours limpide. Idéologiquement, il n'y a pas de fausse note. Donc ça, c'est ça qui nous importe. Avant tout. Alors même si c'est dans l'imaginaire que ça se développe, les actions se développent dans l'imaginaire, on ne sait pas si on est dans le rêve ou dans la réalité, dans quel rêve, dans quelle réalité, mais en même temps, il y a un ancrage historique qui est partagé entre les narrateurs et les lecteurs.
Il y a pourtant un titre.
Oui, il y a dans certains livres, il y a des lieux terrestres très très précis. Il y a Lisbonne, effectivement, Stammheim, qui est une prison où Baader a été assassiné. Et il y a Macao, évidemment. Il y a Macao aussi. Alors, il y a évidemment des jeux avec l'expérience biographique de certains narrateurs, dont moi. Mais par exemple, dans Terminus radieux, qui se passe dans une Sibérie irradiée, la taïga est là, les steppes sont là, les hauts plateaux sont là, mais sur une carte on ne trouverait pas. Ou alors avec Google Maps on pourrait trouver nommer des villes, des capitales, et puis on s'apercevrait que c'est un petit lac qui fait 40 mètres de large, mais qui a un nom, quoi, voilà, par exemple. Voilà.
Moi, j'aurais une question un peu parallèle. Enfin, elle n'est pas parallèle, elle est bien centrale, mais dans ton préambule, je lis que... J'espère que vous évoquez le sujet, parce que c'est quand même pas évident pour moi de le faire, mais je le fais. Donc, vous êtes visible et vous jouissez d'une relative liberté. Et on lit que trois autres auteurs sont encore détenus dans un quartier de haute sécurité. Vous nous confirmez cette information? C'est-à-dire qu'en fait...
Non, mais on est dans une fiction.
Ça, oui, d'accord. C'est bien de la fiction et ça n'a pas de rapport avec le mouvement littéraire lui-même. Enfin, il n'y a pas de...
Ça a beaucoup de rapport, mais on est dans une...
Est-ce qu'il y a eu une répression? Est-ce qu'il y a eu une intimidation? Il y a la possibilité d'écrire? Enfin, mais...
D'une manière générale, si je parle de répression, de censure, de tabassage, c'est pour renvoyer à du réel. Mais le post-exotisme construit une fiction. Hein. Le quartier de haute sécurité dont il est question dans tout ce texte, est un quartier imaginaire. On est dans une fiction, mais si on gratte un peu, on peut voir tout à fait autre chose que de l'imaginaire, et on peut voir l'expérience de révolutionnaires qui ont été emprisonnés et à qui je donne une parole littéraire qu'ils n'ont pas eue, hein, dans la réalité. Voilà. Non, je ne parle pas d'écrivains emprisonnés en Iran. Je ne parle pas d'écrivains victimes de la censure qu'on puisse nommer. C'est la même chose que pour la géographie, si vous voulez. Il n'y a pas d'attachement à du réel. Les seuls renvois au réel, c'est dans un texte qui s'appelle Écrivain. Je crois que il sera pris.
C'est le prochain. C'est le prochain. Oui.
Où j'ai travaillé sur des listes de gens assassinés dans un polygone du NKVD, et j'ai fait des recherches pour donner leur nom. Il y a l'utilisation du réel dans ce livre. Des fiches, les noms qui sont énumérés. Là, on a entendu des noms imaginaires, mais dans ce livre, Écrivain, à un certain moment, il y a un personnage qui évoque les noms de gens qui ont été fusillés le même jour. Le jour de sa naissance, de la naissance de ce personnage, et c'est bien des listes et des détails réels. C'est une manière aussi, là, de rendre hommage à ces obscurs qui, il y en a eu 180 ou 210, je ne sais pas, enfin sur le même polygone, qui ont été exécutés. En 38, et c'était une recherche très pénible pour moi parce que il s'agissait d'aller dans les archives de Mémorial et de constater que ce jour-là, tous les gens qui ont été tués, c'était pas des écrivains. C'était pas des personnalités du théâtre, c'était des pauvres types, c'était des concierges, des ouvriers, c'était eux qui étaient la masse, qui étaient la victime du stalinisme. C'est pas quelques écrivains dont on donne les noms, hein. C'était eux. Alors c'est en travaillant sur ces archives que j'ai introduit pour la première et dernière fois, je pense, du réel, enfin du documentaire dans la narration.
Pour prolonger la question de la répression, ça me faisait penser à un article qui était une construction journalistique assez rigolote où le post-exotisme était dévoilé par des groupes financiers des services français comme faisant partie d'une sorte de conspiration avec l'œuvre romanesque de Bolaño et puis l'édifice philosophique du parti imaginaire. Et du coup, l'article étant assez jubilatoire à lire, je trouve. Mais je me demandais, voilà, sur ces parallèles-là, est-ce que si vous l'aviez lu, et si vous aviez reconnu des parallèles, des parentés, je pense notamment de Bolaño.
Oui, bien sûr, j'ai beaucoup apprécié cette farce, cet article farcesque, qui était très bien fait, très, très amusant, et intellectuellement savant également. Et d'autre part, Bolaño est un...
est un auteur que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Donc m'associer à lui de cette manière un peu fantastique était très amusant. Et politiquement, c'était bien vu
oui,
aussi.
Oui,
ouais. Politiquement,
il y a des
c'était très bien.
Entre vous deux,
oui. Mais il est mort.
Il a été découvert quand il était déjà mort, quasiment ici, en tout cas en France.
Oui.
Quasiment.
Radio Livre Dormir.